Jean-Charles Piron, bonjour.
Bonjour.
Jean-Charles Piron, vous démarrez actuellement l'écriture d'un ouvrage consacré à l'arboriculteur Jean-Joseph Picoret, un arboriculteur tout à fait renommé, nancéen d'origine, enfin non seulement d'origine, mais là il a mené toute sa vie à Nancy, un peu oublié et que vous avez remis au goût du jour. Qui était Jean-Joseph Picoret ?
Alors effectivement, Jean-Joseph Picoret était nancéen. Il est né à Nancy en 1844. Mmh. On peut dire qu'il a vécu toute sa vie à Nancy en différents lieux, mais toute sa vie, il l'a passé à Nancy.
Monarchie de Juillet.
Oui. Et ce qui est remarquable, c'est que cet homme a traversé, dans ses 84 années de vie, toute une série de graves crises, que ce soit le passage de la monarchie à la République.
Un témoin de l'histoire.
Voilà, à l'Empire et aux guerres. Oui, un témoin de l'histoire.
Mmh. Alors, ça n'explique pas jusqu'à présent, Jean-Charles Piron, la singularité du personnage en tant qu'arboriculteur, un amoureux des arbres, et peut-être plus particulièrement des arbres fruitiers.
Oui, alors, Jean-Joseph Picoret, après sa formation, son instruction primaire, a commencé son apprentissage chez Louis Crous. Louis Crous était un des, sinon le plus grand horticulteur de Nancy à l'époque, le père de François-Félix Crous, qui a été un des compagnons de Victor Lemoine. Et simultanément, il a commencé à suivre des cours chez le premier professeur d'arboriculture de Nancy, qui était Louis-Germain Alix, qui avait créé une école en 1858. Et ainsi, Picoret était à la fois formé comme horticulteur et comme arboriculteur. Et quand ça a été terminé, il avait deux idées en tête, créer sa propre exploitation, mais également simultanément partager, expliquer et promouvoir l'arboriculture à Nancy.
Alors ça, on y reviendra avec vous, Jean-Charles Piron, ce côté communicant avant l'heure. Hein, oui. On verra que Jean-Joseph Picoret a utilisé la photo, les dessins, les écrits. Oui, un vrai communicant avant l'heure. Mais avant d'aborder cet aspect-là avec vous, Jean-Charles Piron, de quoi, je veux dire trivialement, de quoi vivait Jean-Joseph Picoret ? Quelle était son activité principale, en tout cas au début de sa vie ?
Alors, l'activité principale était celle de pépiniériste arboriculteur. Mmh. Il a créé en 1881 un établissement rue du Monté. La rue du Monté, c'est la rue Jeanne d'Arc. C'est l'avenue Général Leclerc actuelle. Mmh. Et c'était à l'embranchement avenue Général Leclerc et rue Jeanne d'Arc que se trouvait son exploitation. Il y avait 2 hectares et qui était consacré en partie à l'arboriculture fruitière, mais également à l'arboriculture ornementale. Et là, on expérimentait la culture de nouveaux arbres, de nouvelles tailles, et on vendait. Et simultanément, il était professeur. Mmh. Parce qu'il a, dès le début, il a voulu aussi enseigner. Et cet homme qui travaillait toute la semaine dans sa pépinière, le dimanche, c'était la conférence Picoret. Et la conférence Picoret, c'était le matin à 10h, conférence pendant 1 heure ou 2, et l'après-midi, dans sa propriété, démonstration pratique.
Alors non seulement un communicant, mais un pédagogue. Vous citez, Jean-Charles Piron, Le Montet, un rapport quelconque avec l'actuel jardin botanique, conservatoire et jardin botanique du Montet ?
Ben, pas du tout, parce que le jardin botanique du Montet est relativement récent. Auparavant, le jardin botanique, il était rue Sainte-Catherine à Nancy, c'est là où se trouve le parc Gaudron actuel. Donc non, la rue du Montet était une rue qui était peu construite. On y voyait d'autres horticulteurs comme Lemoine. Lemoine était en face de Picoret. Hein, mais il y avait surtout des cultures et aussi du vignoble.
Alors à l'époque aussi, une importance bien sûr des vergers, des arbres fruitiers, on y reviendra également. Alors une première partie de sa vie plutôt dédiée à la pépinière et un bon moment de sa vie. Professeur d'horticulture, pour autant Jean-Charles Piron, pas de titre universitaire. Est-ce que c'est une autodétermination, ou est-ce que c'est par la vox populi, quelqu'un qu'on identifie comme un maître?
Je ne crois pas qu'il faille juger selon nos propres critères ou en être prisonnier. On était professeur à partir du moment où on avait appris. Lui avait appris dans une école d'arboriculture dont le directeur l'avait nommé professeur d'arboriculture. Mmh. Et les correspondants, les présidents de sociétés d'horticulture, les maires, parce qu'il faisait beaucoup d'enseignements dans les communes aussi, lui écrivait « Cher maître, monsieur le professeur
ah ». Oui,
mais il n'en était jamais dupe. Hein, ce qu'on voulait, c'était qu'il vienne. Hein, mais il était... Et c'était la Société Centrale d'Agriculture qui comptait 800 membres, qui est une société très importante, dès 1874, faisait la promotion des cours picorés du professeur Picoré.
Alors c'est à la fois un scientifique, un chercheur, un humaniste, un écrivain, un photographe, un artiste finalement. Est-ce que, à qui pourrait-on aujourd'hui le comparer si Picoré était notre contemporain, Jean-Charles Piron, on a une idée ?
Là vous me posez une colle, parce que dans son domaine, je ne sais pas si, enfin je ne vois personne qui immédiatement puisse être aussi... multiples talents.
De sa trempe.
Et multiples talents, parce qu'il était un praticien, il fallait vendre, il était aussi un chercheur, un expérimenteur, ensuite il était un pédagogue, hein, et quand il avait fait tout cela, il écrivait. En plus, il était écrivain, parce qu'il écrivait des articles, mais il a écrit plusieurs livres également.
Alors vous me disiez néanmoins que parmi tous ses talents, lui manquait celui de gestionnaire. Et là, c'était quand même son épouse qui faisait tourner la boutique.
Oui, alors il y a évidemment un certain nombre d'interrogations. Comment pouvait-il gérer son établissement en ayant des cours à Nancy ? Dans un grand nombre de communes de Meurthe-et-Moselle, il faut que vous sachiez qu'en 15 ans, il a fait 460 conférences dans un grand nombre de communes de Meurthe-et-Moselle.
Avec les moyens de communication que
vous
connaissez de l'époque.
Je vais revenir à ça. Il allait en Haute-Marne, il allait dans la Meuse, il allait dans les Vosges. Et sur les moyens de communication, Émile Gallet, avec lequel il faisait un certain nombre de choses, a écrit... que l'instituteur d'Avillé, c'est un petit village à côté de Longuyon, avait voulu à la fois un déplacement de la commission et un cours. Et Émile Gallet écrit, on a envoyé M. Picoré. 6 heures de train, plus 2 heures de voiture, sans voiture et sous une pluie battante. Voilà, c'est tout. Ça nous donne une idée.
Jean-Charles Piron, Jean-Joseph Picoré, après avoir, enfin, en tout cas en tant que pépiniériste, conférencier, professeur, termine sa vie en tant qu'architecte paysagiste.
Oui, alors j'ai longtemps pensé qu'effectivement, comme vous venez de le dire, il a terminé sa vie comme architecte paysagiste. Mm-hmm. Mais en fait, non. Il l'a aussi bien commencé comme architecte paysagiste, parce que j'ai trouvé, il y a quelques temps, enfin pas très longtemps peut-être, que... Il avait à peine 25 ans qu'il obtenait des prix pour des plans de jardin.
Alors là, c'est pareil, pas de formation initiale, pas d'université, pas d'école, reconnu en tant que pour la qualité précisément de ses plans, de ses imaginations. Vous nous avez ramené aussi, alors évidemment c'est pas très radiophonique, mais des ouvrages où l'on voit des maquettes en 3D, y compris à la fois fabriquées et photographiées par Jean-Joseph Picoré.
Mais je dirais que là encore, nous sommes prisonniers de notre système un peu figé. On jugeait sur pièce. Mmh. On vous présentait un projet, le jury ou les personnes qui l'ont commandé l'apprécient ou ne l'apprécient pas. Mais on ne regarde pas ce que vous avez.
En même temps, on en est aujourd'hui aux imprimantes 3D. Il aurait été ravi.
Oui. Mais ceci étant dit, vous posez quand même une vraie question. Alors je me suis demandé comment il avait pu faire ça. Et alors je suis allé rechercher la formation que recevaient les enfants à l'école primaire mutuelle à Nancy vers 1850, et il y avait des cours de dessin. J'ai retrouvé d'ailleurs un certain nombre de sujets de dessin, hein, et je crois qu'on les préparait bien. Tout comme pour écrire, moi j'ai été stupéfait de voir comment il écrivait certains bouquins.
Beaucoup de choses à dire, hein, sur l'évolution du français, de la pratique et de l'apprentissage. Oui, ajouter quelque
mais
chose.
Mais simplement, il faudra revenir sur architecte paysagiste parce que c'est un domaine très important.
Eh bien, revenons-y.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur ce point-là, Jean-Charles Piron ?
Donc, il a commencé très tôt avec des plans un peu modestes. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, et dès la fin du 19e siècle, il s'est attaqué à des propriétés beaucoup plus importantes. Et on peut le comprendre parce que il y avait eu un développement des industries en Lorraine après la fin de la guerre de 1870. Il y avait dans les Vosges des entreprises de tissage où les patrons voulaient un peu embellir le cadre, l'environnement de l'usine et lui commander des parcs à Nancy, les familles Luc, les tanneries lui ont commandé aussi des parcs. À Mercy, il y avait un château près de Metz où il a fait le parc. Il y avait des parcs publics sur lesquels il intervenait. Alors, je peux citer l'exemple qui est le plus célèbre parce qu'il existe encore aujourd'hui.
Et précisément, Jean-Charles Piron, j'allais vous poser la question de toutes ces créations. Est-ce qu'il en reste aujourd'hui en France, en Lorraine en particulier?
Il en reste en Lorraine et ailleurs qu'à Nancy, même s'il en a fait un certain nombre à Nancy. Un botaniste me disait récemment qu'il y a 10 ans, il y avait encore un des rochers, c'était la mode des rocailles et autres, qu'il y en avait près de la rue du Sergent Blandan, mais ça a été démoli. Il y avait une rocaille picorée à la pépinière, elle a été démolie. Il avait fait tout le rocher de l'aquarium de l'exposition de 1909, l'exposition internationale. Il avait eu d'ailleurs le grand prix d'honneur et autres, mais tout a été démoli, puisque tout a été démoli après l'exposition de 1909. Mais il reste le parc public de Verdun, le parc Japiot. C'est lui qui l'a dessiné, qui l'a conçu. Et il est toujours le parc public. La ville de Verdun a décidé de le restaurer, de le rénover il y a 4 ans. Et la société qui a été chargée de ce travail, et j'ai rencontré l'ingénieur qui en avait été le responsable, m'a dit « Nous avons voulu rester fidèles au style romantique de Monsieur Picoret, Picoret auquel on rend hommage, puisque la plaque qui se trouve à l'entrée du parc aujourd'hui rend hommage à Picoret, disant que c'est lui qui a dessiné le parc. »
Et puis je crois qu'il reste aussi des traces à Épinal, me dit-il.
Ah oui, le cours d'Épinal, il a travaillé là. Un autre exemple, le parc des haras de Rosières aux Salines. Mais il y a un certain nombre d'autres exemples que je pourrais citer.
Jean-Charles Piron, avant la pause musicale, nous évoquions les traces que Jean-Joseph Picoret aurait pu laisser dans les parcs et jardins. Et vous en parlez de façon presque aussi passionnée que lui. On sent bien que vous êtes totalement enthousiaste par le personnage, Jean-Charles Piron. Que reste-t-il aujourd'hui de l'œuvre de Jean-Joseph Picoret?
Alors, ce que je voudrais vous dire et qui a été très important, c'est que la guerre 14 a été une grande fracture pour toute l'horticulture à Nancy, comme pour d'autres activités.
Bien sûr.
En ce qui concerne Picoret, son fils, Constant, devait lui succéder.
Combien d'enfants
Il avait 4 filles et un fils. 2 filles étaient religieuses, 2 étaient mariées, d'ailleurs hors de Nancy. Et il avait son fils qui avait appris le métier, qui avait fait le tour de France un peu des compagnons, et qui était revenu pour travailler avec son père. Et il a été mobilisé le 1er août 1914, comme beaucoup. Et il est décédé, il a été tué. 6 semaines plus tard, après avoir fait la bataille du Grand Couronné, la bataille de la Somme, de la bataille d'Albert. Ça a été la fin de l'exploitation, de l'établissement Picoret. Il a continué à travailler jusqu'en 1928, à sa mort à 84 ans. À 79 ans, il allait lui-même concevoir et planter un parc à Rupt-sur-Moselle. Bon. Alors ce qui reste, tous ses écrits, parce qu'il a écrit beaucoup d'articles et des livres pour justement démontrer la justesse de ses thèses, parce que tout n'était pas orthodoxe, et c'était le résultat de ses expérimentations, puis il nous a laissé des photos.
Alors précisément, venons-en à votre propre travail, Jean-Charles Piron, vous n'êtes pas historien de formation, je le disais en introduction, vous êtes l'ancien directeur du département audiovisuel du Parlement européen. D'où vous est venue tout à coup cette idée de traiter de l'arboriculteur Jean-Joseph Picoret, et puis racontez-nous cette histoire, parce que c'est presque une enquête policière.
Alors c'est exactement une enquête policière, et je pourrais vous dire qu'elle a eu des ramifications jusqu'en Corée, parce que j'ai retrouvé une religieuse qui avait été qui avait connu une petite fille de Jean-Joseph Picoret et qui avait vécu en sa compagnie pendant une quinzaine d'années. Elle est actuellement en Corée, j'ai dû la retrouver pour lui poser toute une série de questions. D'ailleurs, j'étais très frappé de voir la qualité de sa mémoire, mais seulement pour vous dire, vous voyez, jusqu'en Corée l'enquête. Alors, pourquoi j'ai fait ça?
Précisément.
Il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à faire des recherches sur un établissement d'horticulture à Nancy, Blaison-Forêt. Pourquoi? C'était la famille de ma mère. Jusque-là, je n'avais jamais fait très attention à son décès, elle m'avait laissé 2 valises pleines de photos qui n'avaient pas grande signification. Donc j'ai commencé. Et je croisais parfois des références Picoret. J'ai rencontré Pierre Valque, qui était à l'époque le président de la Société d'horticulture, qui m'a dit « Picoret, c'est du solide, il faut chercher ».
Alors, qu'est-ce que Pierre Valque voulait dire par là?
Eh bien, que c'était un homme qui avait compté dans l'époque importante de l'horticulture. C'était l'âge d'or de l'horticulture, la fin du 19e, ce qu'on a appelé la belle époque. Et vous savez que l'horticulture a été une des sources d'inspiration des artistes de l'école de Nancy.
Bien sûr.
D'ailleurs, Émile Gallet était le vice-président et le secrétaire général de la Société d'horticulture, et il a écrit énormément dans les bulletins de la Société d'horticulture, et il était très actif.
Là. Alors donc, c'est votre premier contact avec, avec Jean-Joseph Picoret, et puis alors, cette rencontre avec sa descendance, ou en tout cas, toute sa famille, qui, je crois, est installée dans le sud de la France.
Et oui, parce qu'il n'y avait rien. Donc, où étaient-ils, ces gens-là ? Et mon point de départ a été la tombe Picoret au cimetière du Sud.
Ah, ça commence souvent comme ça.
J'ai réussi à avoir le nom de la personne qui était concessionnaire, que j'ai trouvé, qui était près de Vaison-la-Romaine. C'est une personne âgée qui m'a très bien accueilli la première fois où je suis arrivé en disant « j'aime pas les gens de l'Est ».
Voilà.
Mais ensuite, disons que les choses se sont beaucoup améliorées, et surtout, après son décès, ses enfants, progressivement, ont été passionnés, m'ont fait confiance.
En quelque sorte.
Et ils m'ont donné toutes leurs archives.
Jean-Charles Piron, ils ont redécouvert leur aïeul à travers.
Mais oui, ils l'ont découvert.
Alors, vous travaillez à partir de quels éléments? Vous disiez beaucoup d'écrits de la part de Jean-Joseph Picoret, l'arboriculteur. Allez, je sais pas, est-ce que ça s'évalue en kilos, les documents que vous avez comme ça, que la famille vous a confiés?
Oui, il y a plusieurs kilos de textes, de photos. Et il y a autre chose. Les archives presse. Je vais vous simplement un seul exemple. Maintenant, avec le kiosque Lorrain, c'est facile. J'ai fait une recherche. Picoret, dans l'Est républicain, entre 1889 et 1920. 638 fois.
Bon. Il
y en a à peu près 20 qui ne correspondent pas à lui. Mais toutes les autres, ce sont des références, des articles sur lui où il est cité pour une de ses actions.
Alors
de ses opérations.
Comment est-ce que face à cette quantité d'archives, Jean-Charles Piron, on attaque un tel monument comme Jean-Joseph Picoret?
Avec beaucoup de méthodes. Chaque fois qu'un document vous tombe sous la main, il faut le scanner et le mettre dans une base de données avec des mots-clés et un numéro. Et puis la date et autres. Autrement, vous ne les retrouverez jamais.
Combien de temps vous prend cette écriture? Vous êtes en plein dans cette écriture-là, je le disais, pour une publication aux éditions Vent d'Est apparaître en septembre 2016. J'imagine que tout va bien. Vous êtes dans les
oui.
Durées.
Oui, absolument.
Comment est-ce qu'on se passionne comme ça pour ce personnage, Jean-Joseph Picoret?
Bien écoutez, cette enquête, vous avez, je crois, utilisé le mot tout à l'heure, et ces rebondissements, et le fait que presque toutes les semaines, si j'y travaille, on découvre des faits nouveaux, certains absolument difficiles même à croire.
Est-ce que ce n'est pas des fois un peu difficile de faire finalement le tri entre l'immensité des archives disponibles?
Et c'est très difficile, à un moment, de dire stop, et de dire maintenant on écrit, parce qu'il y a la curiosité, et on voudrait toujours aller plus loin, et on trouve. Mais il faut savoir s'arrêter, et puis formaliser.
Alors, en parallèle de cet ouvrage que vous écrivez en ce moment, Jean-Charles Piron, sur Jean-Joseph Picoret, une exposition également, et des conférences qui tournent déjà.
Oui, alors il y a une exposition qui a été créée en 2014, à l'initiative, et elle a collaboré avec moi, de Maura Rougieux, qui est pépiniériste à Lanfrancourt, qui m'avait demandé une conférence, puis je ne pouvais pas, elle m'a dit, ben alors, il n'y a qu'à faire une exposition.
Bah oui.
Alors sur le coup, j'ai trouvé ça drôlement intéressant, mais bon, il a fallu la faire, mais nous avons pu la faire grâce à la collaboration qu'elle a apportée, et grâce à un graphiste designer qui est Pascal Laurent, qui nous a beaucoup aidé pour la mise en forme. Alors elle tourne, elle était bien entendu à Lanfrancourt, elle a été au jardin d'Adoué, elle est actuellement au parc Sainte-Marie jusqu'au mois de juillet. À partir de mi-juillet, elle va au jardin botanique du Montet, donc tous les Nancéens auront la possibilité de la voir s'ils le veulent.
Alors, néanmoins, Jean-Charles Piron, un tel personnage comme Jean-Joseph Picoret mériterait à minima une plaque, une stèle, un hommage quelconque au moins de la ville de Nancy. Est-ce que c'est le cas?
Eh bien, autant que je sache, ce n'est pas le cas. Et puis, moi, je pourrais faire une autre suggestion. Un petit parc, par exemple. Puisque Picoret, je crois que ce à quoi il a accordé le plus de temps dans la deuxième partie de sa vie, ça a été de dessiner, de concevoir et de créer des parcs.
Est-ce que vous avez fait la proposition à la municipalité de Nancy, Jean-Charles Piron?
Pas formellement, mais nous avons évoqué, tourné. C'est progressivement que la prise de conscience arrive.
On sent aussi le côté pédagogue. Jean-Charles Piron, la Société Centrale d'Horticulture de Nancy, vous le disiez tout à l'heure, vous a un peu mis la puce à l'oreille. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, elle vous accompagne dans ce travail?
Ah oui, alors elle m'a mis la puce à l'oreille et Pierre Valque m'a proposé d'entrer au conseil d'administration, ce que j'ai accepté, chargé de l'histoire de la société et des archives. Bon, bah évidemment, moi, j'étais ravi. Et donc, maintenant, la Société d'Horticulture, avec sa présidente qui est Colette Keller-Didier, assure un développement, une promotion de tous ces travaux sur l'histoire de la société, mais en lien avec les enjeux actuels. C'est-à-dire que l'idée qui est vraiment l'idée importante, c'est qu'il faut connaître ce passé, mais il ne faut pas en être prisonnier. Certes, on le connaît, mais on va s'en servir pour faire face aux enjeux qui se posent aujourd'hui à l'horticulture.
Alors précisément, pour en savoir davantage, on retrouvera la souscription pour l'ouvrage que vous êtes en train d'écrire, Jean-Charles Piron, sur Jean-Joseph Picoret dans la collection Les Portraits Célèbres en Lorraine. C'est aux éditions Vent d'Est. La souscription est en cours. L'ouvrage est en vente au prix de 10 euros.
Oui.
L'exemplaire, mais bien sûr, on peut en prendre beaucoup plus. Et on trouvera la souscription en ligne sur le site de la Société Centrale d'Horticulture de Nancy à l'adresse www.schn.fr. Et puis je crois que vous avez également développé un site qui présente, dont je vous laisse nous donner l'adresse.
Ah bien, oui, il y a un site qui présente les travaux et un certain nombre de photos de Jean-Joseph Picoret. C'est très simple. Jean-Joseph Picoret, minuscule attaché, .fr.
Merci infiniment, Jean-Charles Piron, d'être venu nous parler de Jean-Joseph Picoret.
C'est moi qui vous remercie.
Merci aussi à Dominique Herpelding, à la technique aujourd'hui. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable concerne toutes et tous, et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.